Bonjour Farida Mekdoun.
Bonjour.
Vous êtes enseignante au lycée Paul Gauguin et porte-parole des comités de soutien donc de lutte ouvrière, donc notamment positionnée sur la campagne de Nathalie Arthaud pour cette année d'élection présidentielle.
Tout à fait.
Voilà. Ça va bien ? Pas de problème ?
Ça se passe très bien. Notre campagne est active et nous avons été heureux de recevoir Nathalie Arthaud en meeting le 1er mars.
On avait parlé, je m'étais rendu personnellement au meeting de Nathalie Arthaud qui s'était déroulé au centre de conférence d'Orléans. On avait parlé un petit peu notamment des signatures. Où est-ce qu'elle en est actuellement au niveau des...
Elle a 622 signatures à ce jour, je crois, et elle est donc candidate déjà depuis le 7 mars.
Voilà. Non, mais voilà, là, c'est large. Quoi. Voilà. Là, on a largement dépassé les prévisions au départ. Quoi. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit aussi rapide?
Quand on
voit les difficultés de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, à en avoir, ou certains autres candidats, Philippe Poutou notamment.
Nous avons toujours été présents sur ces campagnes présidentielles depuis que Arlette Taguillet. Donc, pour nous, c'est quelque chose. C'est jamais acquis, c'est un combat et nous avons mené cette activité et nous nous sommes donné les moyens d'être présents parce que effectivement c'est très important que le camp des travailleurs se fasse entendre dans cette élection.
Très bien. Donc sur ces interviews, on essaye de revenir notamment sur tout ce qui est question de fond, notamment les questions de programme et surtout les questions de fond. Mais d'abord, je voulais avoir votre réaction. On a parlé en début d'émission de la loi sur l'égalité salariale femmes-hommes elle n'a pas été mise en place pour l'instant, mais qui va se mettre en place en Islande, qui est le premier pays en fait en Europe à mettre cela en place. C'est en fait une loi dans les entreprises de plus de 25 salariés, une loi qui s'appliquera progressivement jusqu'à son aboutissement total en 2022. Donc, il prévoit de faire ça en fait sur 5 ans. Votre réaction un petit peu par rapport à cela justement, est-ce que vous trouvez que c'est le genre de loi qui va dans le bon sens? Est-ce que vous pensez qu'en France justement, on pourrait essayer d'adopter ce genre de loi justement?
Écoutez, dans l'arsenal juridique, il y a énormément de lois qui prônent l'égalité en France. Hein, je parle homme-femme. Le problème, c'est l'application de ces lois. Le problème, c'est si un patron enfreint ces lois, qu'est-ce qu'il risque ? Rien du tout. Donc, moi, je me souviens d'une campagne où Nathalie Arthaud avait dit, ben voilà, les patrons qui ne respectent pas cette loi, ben, on les condamne. Donc, ces lois vont dans le bon sens, mais vous savez, pour ce qui concerne les salaires des hommes et des femmes, et en particulier des femmes, eh bien, c'est une question de rapport de force.
D'accord.
Les femmes, elles ont obtenu leurs droits en luttant. Et si on veut que les lois s'appliquent, eh ben, il faudra un autre rapport de force. Le problème des salaires, aujourd'hui, c'est un problème qui concerne tous les travailleuses et les travailleurs.
D'accord. Justement, vous parliez de lutte. Je reprends une déclaration que vous aviez faite en interview en 2015, si je ne me trompe pas, c'était à la République du Centre. Ah oui, je remonte. Petite recherche là. Vous aviez dit notamment dans cette déclaration, mais ça se rapproche de ce que Nathalie Arthaud disait aussi dans son meeting. Je ne crois pas au grand soir, avec les majuscules, mais au réveil de la conscience des gens. Le changement de modèle ne se décidera pas dans l'isoloir, il se décidera sur le terrain de la lutte des classes. Est-ce que vous pouvez nous préciser justement cette pensée un petit peu de lutte ouvrière justement, parce que j'avais été assez frappé en venant au meeting de Nathalie Arthaud justement, où on disait que il y a un programme un petit peu, mais nous ce qu'on veut faire, on veut faire basculer les choses vraiment dans la lutte et non pas trop dans les élections. Les élections ne servent plus à avoir un temps de parole en fin de compte.
Écoutez, on s'appuie sur toute l'histoire du mouvement ouvrier. On parlait des femmes à l'instant et des droits qu'elles avaient obtenus. Il n'y a aucune avancée sociale qui concerne le mouvement ouvrier, que ce soit sur le domaine des salaires, les congés payés, la journée de 8 heures. Cette journée de 8 heures qui a été un long combat pour les travailleurs aux États-Unis, dans le monde entier. Hein, et le 1er mai est le symbole de cette lutte. D'ailleurs, on l'oublie un peu. Donc, il n'y a rien qui a été obtenu sans lutte. Alors oui, on pense que la société, si on veut vraiment qu'elle change, si on veut mettre un terme aux inégalités sociales, parce que c'est ça nous qui nous importe, si on veut que les moyens qui existent dans la société servent au bien commun, à toute l'humanité, eh bien il faudra une révolution, oui, il faudra... Mais on n'appelle pas ça un grand soir, nous. Mmh. On appelle ça une mobilisation massive, profonde et consciente des classes populaires, des travailleurs en premier lieu, qui sont au cœur de la production et qui font tout dans la société, justement pour remettre en cause la domination aujourd'hui d'une toute petite minorité. Je pense que vous avez vu quand même les chiffres, hein, où on nous dit que les 8 personnes les plus riches dans le monde possèdent autant que la moitié de l'humanité. Et puis en France, c'est pareil. Si on prend les personnes, les 25 personnes les plus riches, là, ou la vingtaine, qui possèdent autant que 25 millions de personnes, donc il est là le problème. Hein, c'est qu'il y a une concentration de la richesse dans une poignée de mains. Et à quoi ça sert ? Eh bien, ça ne sert pas au progrès. Au contraire, c'est un frein au développement de la société. Donc, nous, dans cette élection, on va être cette voix-là. Cette voix qui dit que la société actuelle, tous les autres candidats, ils se résignent à accepter les inégalités. Ils se résignent à accepter le chômage de masse. Finalement, ce sont des candidatures de la résignation. Eh bien, nous sommes des candidatures pour la mobilisation des travailleurs et leur conscience.
D'accord. Et la mobilisation, lorsque vous parlez de lutte notamment, est-ce que cela signifie à un moment donné une utilisation possible de moyens violents ou on reste justement dans la lutte pacifique ?
Vous savez, c'est jamais les classes qui sont opprimées, que ce soit les esclaves dans le passé, que ce soit les serfs à l'époque médiévale ou que ce soit les travailleurs dans leur lutte du 19e, du 20e siècle, c'est jamais eux qui décident que la lutte elle est violente. Hein. Ceux qui décident que la lutte est la violente, c'est ceux qui sont à la tête de cette société, à l'appareil d'État, qui est à leur service. C'est eux qui envoient la police. Moi, j'ai jamais vu de force de police, de CRS envoyée sur des patrons qui licencient. Vous avez vu ça, vous ? Jamais. Hein, qui bafouent les droits des travailleurs ? Jamais. Eh bien, donc, si la classe bourgeoise laisse la place sans problème, il n'y aura pas de violence, ça dépendra d'elle. Mais moi, je pense que, vu le passé, il faut se préparer, y compris par la force. Mais la force des travailleurs, ce n'est pas uniquement les armes. Hein. Ça ne sera pas que les armes. La force des travailleurs, et ce qui fait qu'ils sont en mesure de changer cette société, c'est que c'est eux qui font tout dans la société. C'est eux qui tiennent les rênes de l'économie, en réalité. Hein. C'est pas eux qui dirigent l'économie. Hein. C'est les propriétaires de capitaux, les propriétaires d'usines qui la dirigent. Mais ceux qui font tout dans la société, ce sont les travailleurs. Quand ils s'arrêtent, tout s'arrête. Et c'est ça qui fait mal aux patrons. C'est quand tout s'arrête, ça fait mal là où ils sont sensibles, à leur portefeuille. Hein.
Est-ce que des fois, quand les choses s'arrêtent aussi par leur volonté et par la volonté d'un patron, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, des fois, de freiner une avancée, même si elle est synonyme de chômage ? Je m'explique. Oui. C'est-à-dire que pour certaines sociétés, des fois, il est nécessaire, parce que baisse d'activité, parce que manque de compétitivité, il est nécessaire des fois d'amener à une délocalisation, d'amener à une fermeture d'usine pour rendre pérenne et viable la vie d'une marque. Est-ce que ça, c'est un paramètre que vous prenez en compte et qui modifie votre comportement face au patronat ? C'est-à-dire que demain, quelqu'un qui adhère à vos idées et qui fait partie d'une usine, voilà, qui travaille dans cette usine et qui voit son usine soit délocalisée simplement pour des raisons de compétitivité dans le monde où l'on est, soit pour des raisons simplement de marché et qui voit son usine se fermer, tout simplement. Est-ce que cette personne-là, elle va vouloir de toutes ses forces garder son emploi au risque que son emploi puisse détériorer même la société qui l'emploie ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Écoutez, moi j'aimerais bien, là pour l'instant, je pense que les travailleurs, il faut qu'ils se soucient de leurs intérêts. Il faut toujours se soucier de l'intérêt de l'entreprise, du patron, etc. Et les patrons, leur art, justement, l'idéologie de la classe qui nous domine, là, c'est de nous faire croire que leurs intérêts sont les nôtres. Mais moi je ne suis pas d'accord, parce que l'exemple que vous venez de donner, une entreprise qui ferme pour sauver l'entreprise et les emplois en général au détriment d'un emploi particulier, c'est le cas par exemple du groupe PSA. Quand le groupe PSA a fermé le site d'Aulnay, où il y avait quand même 3000 travailleurs qui étaient présents dans cette usine, dans un département qui est sinistré, la Seine-Saint-Denis, où il y a énormément d'entreprises qui ont fermé, où il y a un chômage de masse, eh bien, ça, cette entreprise PSA, l'État, hein, à l'époque, c'était M. Arnaud de Montebourg qui était ministre du redressement productif, je crois, l'État est venu au secours, soi-disant, de PSA qui en aurait eu besoin. Et résultat, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez vu les profits de PSA, comment ils se sont envolés ? Vous avez vu qu'ils sont capables de racheter Opel, là ? Ils achètent un groupe automobile, comme vous achetez une voiture et encore vous la payez à crédit. Bon, donc, moi, Le problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, les travailleurs, ils n'ont pas les cartes en main pour juger de ce que vous venez de me dire. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont accès aux comptabilités des entreprises? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une transparence sur les projets des groupes? Absolument pas.
Ça dépend des entreprises.
Bah non, parce qu'aujourd'hui, il y a une loi qui s'appelle la loi sur le secret professionnel, la loi sur le secret des affaires, qui fait que...
Loi qui a été votée, justement, au Parlement européen récemment, en fait.
Elle a été renforcée. Ouais. Je signale d'ailleurs que tous les partis, y compris le Front National, par exemple, a voté cette loi.
Le Front National, effectivement.
Donc, les lois patronales, il est pour. Et ça révèle bien sa nature. Donc, aujourd'hui, cette loi, elle crée une opacité qui fait que les travailleurs ne sont pas en mesure, justement, de décider, d'avoir un avis. Et justement, ça fait partie de notre programme. Ça, c'est une des trois grandes mesures qu'on prône, l'abolition de cette loi sur le secret commercial et bancaire, de manière à savoir où l'argent va, à quoi il sert. Est-ce que l'entreprise est réellement en difficulté? Vous me dites qu'elle est en difficulté en 2016. Certes, mais en 2015, en 2014, dans les 10 années précédentes, où sont passés les profits accumulés? Ils se sont transformés en palais, en lingots, en yachts, en appartements de luxe, que sais-je? Moi, je dis, il faut prendre sur les profits accumulés, y compris sur les fortunes privées, hein, des actionnaires, pour maintenir l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, le chômage, c'est un fléau. Nous, on pense que c'est le fléau numéro un. Ça détruit la société, ça détruit le tissu social, ça détruit les réseaux de solidarité, ça crée la peur, ça crée la crainte. On peut pas. Je suis enseignante dans un lycée professionnel et je vois les difficultés que les jeunes ils ont, ne serait-ce qu'à trouver un stage non rémunéré. Donc, on peut pas laisser la jeunesse comme ça en dehors du marché du travail et l'accueillir de cette manière. Tout le monde doit avoir une place dans la vie économique. Personne n'est en trop. Aujourd'hui, les seuls qui sont en trop, c'est ceux qui pillent les richesses à leur profit, c'est-à-dire les grands actionnaires.
D'accord. Une question que je me posais, c'était pourquoi le Front National est-il si audible auprès de la classe populaire, alors que justement, il s'agit de la classe, par exemple, que vous défendez avec Nathalie Arthaud au sein de Lutte Ouvrière, que Philippe Poutou défend avec le nouveau parti anticapitaliste. On peut même élargir à Jean-Luc Mélenchon ou autre. Pourquoi est-ce que c'est le Front National qui récolte souvent ces voix des classes populaires, selon votre analyse?
Écoutez, d'abord, le Front National ne récolte pas uniquement les voix de son électorat. C'est un électorat beaucoup plus classique.
Oui, ouais, mais ils réussissent quand même.
Alors oui, ça c'est un problème. C'est un problème pour nous. Et justement, nous, on combat ça. Nous, on est sur le terrain à militer auprès des travailleurs pour leur expliquer que Marine Le Pen, eh bien, elle est comme les autres. C'est une solution de plus pour les patrons, pour la bourgeoisie.
Mais comment ça se fait que vous ne soyez pas audible malgré tout?
Eh bien, écoutez, déjà audible, on est audible sur le terrain. Mais vous avez quand même vu les cuités dans le domaine de la campagne électorale. Nathalie Arthaud a eu droit à 66 minutes dans la période des cuités. Et Fillon, je ne sais plus combien, un nombre de fois, je ne me souviens plus du chiffre, mais faites les comparaisons. Donc le fait d'être audible ou pas, ça dépend aussi des invitations qu'on nous donne. Nous, sur le terrain, nous militons de toutes nos forces. Et on n'est pas nombreux à militer, d'ailleurs, sur le terrain.
Donc c'est un problème médiatique pour vous?
Ce n'est pas uniquement un problème médiatique. Le problème, il est aussi que, qu'est-ce que on a pu constater quand même que la droite a repris les thèmes de campagne de Marine Le Pen. Mmh. La gauche, le Parti Socialiste, au lendemain de l'attentat du 13 novembre, ils ont repris la déchéance de nationalité, l'état d'urgence, tout un certain nombre d'idées. Ils ont puisé dans l'arsenal de l'extrême droite. Eh bien oui, ils sont responsables, un, de son succès électoral par la désorientation qu'ils ont créée, par les politiques successives qu'ils ont menées, et deux, par le fait qu'ils ont repris une partie de ces thèmes de campagne et qu'ils l'ont crédibilisé. Alors quand je vois qu'aujourd'hui, certains parmi les dirigeants du Parti Socialiste crient au feu, au loup à propos de Marine Le Pen, eh ben moi ça me met en colère. Parce que eux, ils ont soufflé sur les braises, ils ont alimenté le feu et ils voudraient se présenter aujourd'hui comme des pompiers. Alors pas question de les suivre sur ce terrain-là.
On va venir sur les questions un peu de programme. Première question sur la vision de l'Europe portée par Lutte Ouvrière et par Nathalie Arthaud. Faut-il sortir complètement de l'Europe? Faut-il refonder une Europe sur d'autres bases? Quelle est l'opinion de Lutte ouvrière de ce côté-là?
Ben nous, on est internationalistes, hein, donc on serait pour union, on est pour une union de tous les travailleurs, mais au-delà de l'Europe même en réalité. Hein. Donc maintenant, l'Europe, l'Union européenne telle qu'elle est, vous savez, c'est quelque chose qui a été fait pour le commerce, pour l'économie des patrons, pour leur libre-échange, pour pouvoir accumuler un maximum de profits. Il y a eu des avantages, effectivement. C'est agréable de pouvoir circuler, d'aller d'un pays à l'autre sans montrer sa carte d'identité, ne serait-ce que pour pouvoir comparer les prix, le fait que l'euro existe. On voit les salaires, ce qu'ils sont en Grèce, on voit ce qu'ils sont en Allemagne. Maintenant, s'ils décident l'un ou l'autre, dans leur débat à eux, justement au Parlement et puis entre les gouvernements, ça sera, tout ça c'est des solutions pour la bourgeoisie. Le problème c'est sortir de l'Europe ou pas sortir de l'Europe. Qui détient les capitaux? Ça, le fait de sortir ou pas de l'Europe, ça ne va pas remettre en cause la propriété des actionnaires sur leurs grands groupes, leur choix, le fait de licencier ou de ne pas licencier. Ce n'est pas Bruxelles qui a décidé que PSA allait fermer. Ce n'est pas eux qui ont décidé ça. Donc, c'est bien. Il ne faudrait pas que ça dédouane justement les vrais responsables.
Mais c'est-à-dire sortir des traités budgétaires ou autres,
ce n'est pas suffisant. Pour moi, c'est un faux combat. Ce n'est pas le combat des travailleurs. D'accord. Et justement, c'est tous les dirigeants politiques de gauche qui disent que les traités européens, c'est le combat, il faut se battre contre tel traité. Non, il faut combattre les patrons. Le rapport de force, il est justement par rapport aux grands groupes, pas par rapport aux traités.
J'ai deux questions à vous poser. Par rapport à ce que vous dites là, ça fait résonance un petit peu à une idée que j'ai. Par rapport justement à ce qui se passe en Europe et à ce qu'on peut voir dans les autres pays, on voit qu'en Europe, on a une vraie inégalité. Tout à l'heure, on parlait de compétitivité. Je pense que c'est le cas. On a une vraie inégalité sur ce qui est produit dans l'Union européenne. Cette production française, on sait qu'elle a du mal aujourd'hui, notamment sur tout ce qui est manufacture, à s'exporter si ça ne fait pas partie de la gastronomie ou du luxe. On a des exportations françaises qui sont difficiles aujourd'hui, il faut le dire. Est-ce que la concurrence au sein même de l'Union européenne est une chose bénéfique pour vous? Ça, c'est la première question. Est-ce que cette concurrence nous amène à nous tirer vers le haut et à tirer vers la qualité et à reconnaître cette qualité française? Ou est-ce qu'au contraire, elle va dévaloriser les produits français simplement pour des questions de coût, de prix? Voilà, ça c'est ma première question. La deuxième question que je voudrais vous poser, c'est...
On va peut-être s'arrêter à la première question d'abord.
D'accord.
Et après on fera la deuxième. Oui,
voilà. Écoutez, moi je ne me reconnais pas dans ce discours, la production française. Qu'est-ce que ça veut dire la production française, hein? Vous savez, pour fabriquer une voiture ou qui est fabriquée en France, il faut des matériaux qui viennent de partout, mmh, avec des travailleurs qui viennent de partout. Donc pour moi, c'est pas un problème, production française ou pas. Le problème, c'est est-ce qu'on va pouvoir vivre. Il ne faut pas subordonner l'activité économique au fait que l'entreprise elle est française ou pas. Le coût de la main-d'œuvre en France, parce que la compétitivité, les patrons, ils n'arrêtent pas de pleurer après la compétitivité. Hein. Et au nom de cette compétitivité, l'État, il a mis en place le crédit impôt compétitivité, là, CICE. C'est 20 milliards par an qui sont donnés aux entreprises, sans aucun contrôle. Moi, je me souviens de Gattaz, le patron du MEDEF, qui disait 10 milliards, qui disait justement quand Hollande est arrivé au pouvoir, 10 milliards, ça suffit pas, il faut le doubler, vous allez voir, je vais créer 1 million d'emplois. Ça a été doublé à 20 milliards d'emplois, à 20 milliards, ah oui, c'est ça, à 20 milliards. Il est où le million d'emplois? Et en plus, il a eu le culot de dire 2 millions, au nom des petites entreprises, parce que bien sûr, c'est toujours au nom des petites entreprises que les grands ils réclament. Donc non, la compétitivité, moi je ne m'inscris pas là-dedans. Parce que vous savez, en Europe, les salaires qu'il y a en France, ce n'est pas les plus élevés, loin de là. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent s'installer en France parce que rapport main-d'œuvre, qualité de main-d'œuvre, c'est très intéressant. Donc moi, mon problème, c'est comment on survit. Comment les travailleurs ils finissent leur fin de mois. Ce n'est pas est-ce que la production française, elle est française ou pas. Ça, le salut ne viendra pas de ça, je ne crois pas.
Hein. Pourtant, ça amènerait de l'emploi.
Qu'est-ce qui vous le dit que ça amènerait de l'emploi?
Plus parce on a que de production française, plus ça amène de l'emploi. C'est
alors, pas forcément. Aujourd'hui, vous savez, les entreprises qui sont installées, qui sont là, mmh, hein, leur problème, c'est la rentabilité. Elles font des profits, hein, elles font des bénéfices, mais le problème, c'est qu'elles en veulent toujours plus. Mmh. Quand une entreprise fait 9%, 6% de bénéfices, les actionnaires convoquent le PDG et leur disent « Mais ça ne suffit pas, 6%, nous, on veut un taux de profit à des chiffres. » Pourtant, elle fait des bénéfices. Vous vous débrouillez comme vous voulez. Nous, on vous donne 6 mois, et puis même 3 mois, et puis dans 3 mois, on veut un taux de profit à 2 chiffres. Et il se débrouille, il convoque ses directeurs, ses collaborateurs. Allez hop, on va faire un petit plan de licenciement par là, on va se débarrasser des bras cassés, et on va restructurer, etc. C'est comme ça que ça se passe. Français ou pas français, c'est la loi du profit. La loi du profit, elle n'a pas de nationalité. Hein. Elle dirige l'économie, elle dirige les capitaux. Et les capitaux français, s'ils ont plus à faire de bénéfices ailleurs, ils le font ailleurs. Il est là le problème. Alors, moi, là-dedans, je pense que les travailleurs, il ne faut pas qu'ils se trompent de combat. Ils ne doivent pas se battre pour une production française, ils doivent se battre pour des salaires qui leur permettent de vivre.
Ils doivent se battre aussi pour garder leur emploi en France. Hein.
Leur emploi, ils doivent se battre pour garder leur emploi et des salaires. Justement, nous, on pense que les salaires, ils devraient être augmentés. Tous, au moins de 300 euros. Les PDG, leur salaire, enfin leur salaire, si on peut appeler ça des salaires, hein, leur revenu, je dirais, il a augmenté de 65%. Vous avez vu les salaires, comment ils sont bloqués dans plein de secteurs, dans la fonction publique, ils ont été bloqués pendant 7 ans, et là, c'est des miettes qui ont été données. Dans les entreprises, c'est partout pareil, c'est des 0,6%.
Il faut faire au rapport population concernée aussi. Hein,
dans des groupes qui, je vous signale, versent des dividendes à leurs actionnaires. Vous avez vu quand même les bénéfices, les dividendes. Vous les connaissez, les dividendes qui ont été versés aux actionnaires ?
Je vous dirais que les taux n'ont pas d'importance dans ces rapports-là. Je vous dirais simplement que demain...
Pas en si taux, vous, en milliards,
demain,
en euros.
Demain, si vous prenez la peine d'investir, vous, dans une entreprise, c'est-à-dire que vous prenez... Je vous dis une bêtise. Demain, vous stoppez votre livret A, vous prenez ce qu'il y a dessus et vous allez le donner à une entreprise pour qu'elle se développe. Qu'est-ce que vous attendez de cette entreprise ? Vous ne faites pas ça... on va dire bénévolement, vous n'allez pas donner ça dans le vent. Le principe, c'est que vous allez aider un entrepreneur à créer son entreprise, à la développer. Et derrière, qu'est-ce que vous en attendez ? C'est un investissement, évidemment. Vous attendez un retour.
Je vois bien que depuis tout à l'heure, vous essayez de me mettre dans la peau d'un patron. Bah, je suis désolée, moi, mon problème, c'est d'être dans la peau des travailleurs, des travailleuses, qui ont du mal à boucler les fins de mois. Je reviens sur le fait qu'aujourd'hui, les dividendes versés aux actionnaires des 40 plus grandes entreprises, seulement des 40 plus grandes, hein, c'est 56 milliards d'euros. Pas en taux, hein, en montant 56 milliards d'euros. Vous savez ce qu'on aurait pu faire avec ça ? Parce que je pense que vous et moi, et puis ceux qui nous écoutent, les milliards, on n'a pas l'habitude de les manipuler.
Non.
Eh bien oui, eh ben, 56 milliards d'euros, on va visualiser ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'avec ça, on aurait pu créer 1,5 million d'emplois payés, 1 800 euros nets. Ça, c'est pour une année de bénéfices. 1,5 million. Aujourd'hui, tous les candidats disent « Ah, au secours, on ne peut pas créer d'emploi, on va créer d'emploi. » Comment ils vont faire ? Nous, on le dit. L'argent, il existe. 56 milliards d'euros.
Il faut que ce soit des emplois utiles. L'argent existe pour payer les gens, mais vous ne payez pas les gens à rien faire. Nous
moi, je ne paye pas des gens à rien faire. Moi, j'interroge les gens qui travaillent dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les usines, et je leur dis « Vous avez besoin de quoi ?»
Justement, je voulais parce que oui, on va pas faut changer un peu de thème aussi parce que là on leur
oui,
tourne
mais c'est un thème intéressant.
Mais justement, mais pour la transition justement de ce que vous dites, le secteur de la santé, je voulais absolument aborder ce sujet-là avec notamment la vague de suicides d'infirmières qui a eu lieu l'été dernier. On sait qu'il y a de grosses difficultés actuellement au niveau de l'hôpital public français. Que faut-il faire concrètement ?
Bah écoutez, ça effectivement, c'est une bonne transition. Mais il faut embaucher. Hein, moi, j'ai en tête ce qui s'est passé à Tours avec les sages-femmes. Hein, des sages-femmes qui se sont rendues compte que le nombre d'hémorragies avait doublé. Hein, et qui ont alerté les pouvoirs publics. Hein, et qui se sont mobilisées pour ça. Elles sont plus en mesure de faire leur travail. C'est-à-dire donner naissance, de permettre aux femmes de donner la naissance à la vie. C'est symbolique quand même. Quand je vous disais comment on accueille les jeunes aujourd'hui, même comment on accueille les nouveau-nés. Donc, il faut embaucher. Du travail, il y en a. Il y en a par-dessus la tête. Il suffit de discuter, justement, avec les personnels des hôpitaux, les personnels des transports. Vous êtes peut-être un usager du train. Vous avez déjà eu un problème. Vous essayez de avoir une information. Vous trouvez personne. Les guichets sont fermés. À Saint-Pierre-des-Corps, ils ont décidé de fermer, de qu'il n'y ait plus de guichets, plus que des bornes. Et ben, les bornes automatiques, je suis désolée, ben, ce n'est pas ça qui remplace la vraie information. Donc oui, il y a besoin de créer des emplois partout, hein, dans l'éducation. Je ne vous en parle pas. Il y en a, il y a un besoin criant. C'est bien beau de dire les élèves ont un niveau, etc. C'est bien beau de parler de la langue française. Je tiens à le dénoncer, tiens. Ça, j'en profite pour dénoncer ce qu'ils appellent à propos de... sur les chantiers, là, ce qui a été voté dans certaines régions sur la clause Molière sur le fait d'imposer la langue française. J'en profite pour dénoncer cette mesure qui, à mon avis, elle est xénophobe. Elle vise à diviser les travailleurs les uns contre les autres. Hein. Et puis l'apprentissage du français, eh ben, faut mettre les enseignants qu'il faut pour ça, dans les écoles.
Alors vous qui êtes enseignante, justement, est-ce que... vous avez bien dit effectivement qu'il faut, dans votre idée, il faut embaucher des enseignants supplémentaires. Est-ce que c'est suffisant pour, dans votre esprit, en gros, est-ce que simplement en augmentant le nombre d'enseignants, est-ce que ça suffit pour améliorer le système scolaire et faire en sorte, en gros, que tous les élèves puissent apprendre à leur rythme et dans de bonnes conditions ?
Ça serait déjà un début. Mettre les moyens pour permettre, depuis la petite enfance, tout au long de la scolarité, faire en sorte qu'aucun décroche, et puis qu'on puisse avoir un travail en petit groupe, que les enseignants ne soient pas surchargés, débordés, et puis surtout, la plupart du temps, oui, quand on voit qu'on n'arrive même pas à apporter l'aide à ceux qui en ont besoin, bah c'est un peu désespérant. Donc oui, il faut mettre des moyens colossaux, il faut mettre les moyens nécessaires. Hein. Ça n'a pas la santé, l'éducation, tout ça, ça c'est pas un coup, il faut mettre tout ce qu'il faut. C'est une urgence, oui.
Une dernière question, parce que là on arrive vraiment déjà sur la fin de l'interview. Dernière question, je voulais absolument revenir sur la culture. On a une tradition un peu de culture sur Radio Campus. La question que je voulais poser, c'est comment on peut faciliter à la fois la production de la culture et en même temps son accession aussi pour le grand public dans la vision justement de Nathalie Arthaud.
Ben, je pense que la culture, c'est lié à l'éducation aussi. Effectivement, on ne peut pas avancer l'un sans l'autre. Hein. C'est pas complètement, ça se regroupe pas complètement, mais en partie. C'est à la fois permettre pour que ça soit accessible à tous, que tout le monde puisse. Souvent, c'est au travers de l'école quand même que la culture, qu'on peut y accéder. Et puis, c'est aussi permettre à tous ceux qui sont les travailleurs de la culture de pouvoir exister. Ça, c'est les travailleurs de la culture, ils sont comme les autres. Ils sont confrontés à des marchés, au marché du travail. Il faut qu'ils se vendent. Ils sont confrontés à la précarité. Ils sont confrontés à des revenus qui sont compliqués. Donc,
alors comment faire justement pour les aider ?
Il faudrait créer un service de la culture et permettre à tous les artistes, à tous ceux qui travaillent, pas simplement les artistes, mais les techniciens. Je pense que c'est pas les talents qui manquent. Hein, c'est pas les talents qui manquent dans tous les domaines. Leur permettre de s'exprimer et que quelqu'un qui a envie de faire don de ses talents, de ses qualités, il passe pas l'essentiel de son temps à déambuler dans la jungle du marché du travail, ce que font tous les travailleurs. Et c'est un problème d'ailleurs de tous les travailleurs. Et je pense que c'est un grand gâchis, ce chômage de masse actuellement. Quand il y a 6 millions de personnes et plus qui sont sur le carreau, eh ben on se prive de plein de talents dans tous les domaines.
Eh bien, merci, ça sera la conclusion donc, de l'émission, Farida Mekdoud.
Je en profite juste pour dire que tous ceux qui veulent venir écouter
ce que j'allais vous demander.
Nathalie Arthaud sont invités dimanche, je crois que c'est le 26 mars, vous pouvez vérifier, je ne sais plus, le 20... Donc à 15h,
d'accord.
Je ne voudrais pas dire une bêtise, à 15h, donc ça se passera à Paris, ça sera le point d'orgue un petit peu de la campagne. Il y aura
Quel endroit dans Paris, oui.
Au Doc,
d'accord.
Au Doc Pullman. Il y aura un départ en bus à 11h qui se fera au centre commercial Émile Zola à Orléans.
C'est bien. Vous allez prendre ma place hein, bientôt, vous devancez mes questions, là, c'est parfait.
Eh ben, écoutez, c'est pas un souci.
Merci à vous.
Je vous remercie de votre accueil en tout cas.
Merci à vous.